Stéphane Bern nous raconte Honoré de Balzac.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il y a ceux qui jouent la comédie.
Ah non, vous voulez me tuer !
Et ceux qui ont passé leur vie à l'écrire. Une comédie humaine comme un témoignage de la vie et des mœurs d'une époque. Stéphane Bern nous raconte un auteur vraiment pas comme les autres, Honoré de Balzac.
Lorsqu'il commence à rédiger les ouvrages qui vont petit à petit trouver leur place dans ce qui deviendra la comédie humaine, Honoré de Balzac n'a pas encore pleinement conscience de l'œuvre qu'il est en train de réaliser. Il a déjà de la bouteille en littérature pourtant. Au début des années 1830, cela fait bientôt 10 ans qu'il publie à tour de bras des romans d'aventure, mais jamais sous sa véritable identité parce qu'il a tout simplement honte de cette littérature alimentaire et des intrigues à l'eau de rose. C'est vrai que Balzac est loin de ses ambitions premières, mais voilà, il faut bien vivre, d'autant que sa famille ne roule pas sur l'or depuis la mort de son père. Alors Honoré fait feu de tout bois, il feuilletonne un peu partout, il touche aussi à la presse et au journalisme. Bref, il vit qu'à un cas de sa plume, mais sans vraiment percer. C'est pourtant pour cela qu'il s'est lancé dans l'édition, bien décidé à trouver la poule aux œufs d'or qui lui permettrait d'assumer son goût revendiqué pour le luxe. Mais l'aventure a tourné au désastre industriel, une catastrophe qui va le ruiner pour le restant de ses jours. Alors Balzac décide une bonne fois pour toutes d'abandonner la littérature facile pour renouer avec ses premières ambitions. Il publie coup sur coup 2 ouvrages. Physiologie du mariage, d'abord présenté comme un essai sur le bonheur et le malheur conjugal, publié par un jeune célibataire, puis le roman Les Chouans, le premier livre signé de son nom. Les 2 livres se vendent bien et La peau de chagrin, l'année suivante, fait déjà exploser sa renommée bien au-delà de nos frontières. Ce monstre de travail se met alors à écrire partout, tout le temps et surtout, quitte à avaler des quantités industrielles de café et à sacrifier sa santé sur l'autel de la littérature. Il est toujours ruiné, mais il est célèbre et il commence à cerner son ambition profonde, peindre les mœurs de son époque, de sa société. C'est en 1835 que Balzac a une fulgurance. Alors qu'il est lancé dans l'écriture du père Goriot, lui vient une idée encore neuve en littérature. Et si les personnages qu'il avait créés dans un ouvrage apparaissaient à nouveau dans une autre intrigue, puis dans une autre et encore une autre, chaque roman serait alors l'écho d'un précédent. Cette fois, ce n'est plus le fil d'une intrigue unique que l'on compose, c'est toute une tapisserie, une trame capable de représenter tout ce que Balzac a en tête. Ce n'est plus un livre, c'est une composition immense, une cathédrale de papier qu'il décide d'appeler la comédie humaine en référence à la Divine Comédie de Dante. Là où le génie italien avait construit une œuvre théologique, Honoré de Balzac élève une œuvre sociologique, autrement dit, une peinture de la société et des mœurs de son temps. L'ambition de Balzac est à la hauteur de son génie et de son égo. Il le confesse lui-même. Son rêve, c'est de concurrencer l'état civil. La comédie humaine, c'est 21 ans de travail, plus de 2200 personnages de fiction et 2000 autres bien réels. Et si c'est une cathédrale, alors c'est la Sagrada Familia de Barcelone, jamais vraiment achevée. Balzac a beau s'y plonger corps et âme, il ne la conclura jamais. Saisi par la mort en 1850, après 50 ans d'une existence qu'il aura brûlée par les 2 bouts. Lorsqu'il mourut, on retrouva encore 50aine de projets et ébauches plus ou moins avancés. Mais l'œuvre est déjà immense. Sa comédie humaine, c'est le monde selon Balzac, construit sur une conviction essentielle. Il n'y a pas de sujet indigne de la littérature. Balzac est convaincu qu'un auteur doit parler de toute la société, y compris dans ses détails les plus laids. Il n'y a aucune raison de fermer les yeux sur ce qu'on ne montrait pas jusque-là parce qu'on le jugeait trop vulgaire, trop pauvre ou trop triste. Comme Charles Dickens avec l'Angleterre, Balzac veut tirer le portrait de la France de son temps. Comment ? D'abord en faisant le portrait de l'humanité sous toutes ses formes, de la plus sordide à la plus pure, puis en décrivant les rouages d'une société bouleversée par les révolutions successives, transformée par le progrès mais aussi par l'argent, le pouvoir et la finance. Et puisque tout est littérature, Balzac va chercher ses intrigues très loin, jusque dans le code civil, par exemple, avec Eugénie Grandet. Eugénie, c'est une jeune fille dont la mère est sur le point de mourir. quand son vieil avare de père réalise que ce n'est pas lui qui va hériter de la fortune de sa femme, mais bien sa fille, parce que c'est ce que prévoit le Code civil, il va tout faire pour garder ses écus. Mais la comédie humaine de Balzac, c'est avant tout une galerie invraisemblable de personnages que l'on voit au fil des pages, des livres et des années vieillir, mourir, se marier, se ruiner, faire des enfants et en perdre, comploter, monter ou descendre l'échelle sociale. Une galerie. Et quelle galerie! On croise Vautrin, ancien forçat sans scrupules qui doit beaucoup à Eugène Vidocq et qui finira chef de la police, comme son modèle dans la réalité. Il y a le père Goriot, ce père touchant et naïf jusqu'à l'aveuglement, prêt à se saigner aux quatre veines pour ses ingrates de filles, au prix de sa propre déchéance et du mépris général. Il y a Rastignac, évidemment, l'un des rares personnages de fiction dont le nom soit devenu un archétype. Celui du jeune ambitieux monté à Paris avec le célèbre défi qu'il lance à la terre entière depuis le haut du Père Lachaise, à nous deux maintenant. Et puis, il y a Horace Bianchon, le modèle du médecin intègre et prêt à tout pour sauver ses patients. Balzac l'aimait tant qu'on dit que sur son lit de mort, il appelait désespérément Bianchon à son secours, comme si le docteur avait pu se matérialiser devant lui. Si l'anecdote n'est pas avérée, elle en dit long sur le lien inouï entre Balzac et cette comédie qui reste la création de sa vie. Sa comédie humaine reste une œuvre toujours aussi incroyable aujourd'hui, ne serait-ce que par son volume, 137 ouvrages dont 70 romans. Mais c'est aussi une œuvre nouvelle par son organisation. Honoré de Balzac l'a divisé en trois catégories. Les études de mœurs, la plus importante, avec des romans qu'il qualifie de scènes, scène de la vie privée, scène de la vie de province, scène de la vie parisienne, de la vie militaire, de la vie de campagne, j'en passe. Il y a les études philosophiques où Balzac cherche à analyser tout ce qui mène ses personnages vers un destin inexorable. Et il y a enfin les études analytiques où il se fait sociologue avant l'heure. L'autre particularité de l'œuvre, ce sont ses défauts. Même si Balzac avait une mémoire d'éléphant, même s'il était capable de reprendre 15 fois ses épreuves avant de donner son accord à l'imprimeur, on ne construit pas un labyrinthe pareil sans créer tôt ou tard un problème de cohérence interne. Il y a des erreurs de chronologie, des morts qui retrouvent la vie, des dates qui ne collent pas, des caractères qui changent un peu trop. Et Balzac, qui en avait pleinement conscience, avait pensé à construire une sorte de guide pour aider ses lecteurs à se retrouver dans le labyrinthe de sa comédie. Mais le plus frappant, c'est la modernité de certains de ses thèmes, comme la place que Balzac accorde aux femmes. Il est le premier écrivain à parler de leur vie telle qu'elle l'est, pas telle que les hommes la voient. Il suffit de penser à Eugénie Grandet ou à la cousine Bette, sans doute l'un des plus beaux personnages de garce de la littérature française, aigrie, sèche, odieuse et jalouse à en crever de sa cousine Adeline qui a tout ce qu'elle n'a pas. C'est un personnage atroce et l'un de ses plus beaux aussi. La plus belle richesse de Balzac, c'est qu'on n'a jamais fini d'en faire le tour. À chaque relecture, le lecteur découvre un nouvel angle, un nouveau détail, une nouvelle vacherie aussi. Son œil est si acéré que la comédie humaine reste un témoignage hors du commun sur la France du Premier Empire à la Révolution de 1848. Et on pense à la phrase de l'écrivain italien Italo Calvino, pour qui un classique, c'est un livre qui n'a pas fini de dire ce qu'il a à dire. Alors, la comédie humaine est définitivement un de nos plus grands classiques.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Balzac, nous avons le grand plaisir d'accueillir celui qui vient de mettre un morceau de son œuvre en image, l'écrivain et cinéaste Marc Duguin. Bonjour Marc.
Bonjour.
Bonjour Marc Duguin, vous venez en effet d'écrire et réaliser Eugénie Grandet, votre quatrième long métrage actuellement en salle. Un film qui est bien évidemment l'adaptation du roman qu'Honoré de Balzac avait publié en 1834. Au milieu de l'immense galerie des personnages de la comédie humaine dont on parle cet après-midi, pourquoi avoir choisi Eugénie Grandet, qui est d'ailleurs magnifiquement interprétée dans votre film par Joséphine Japy?
En fait, je tournais autour de plusieurs livres de la comédie humaine. J'avais pensé à une époque à adapter le cousin Ponce, la cousine Bette, que je trouve très fort. Et puis, pendant des vacances, il s'est trouvé que j'avais dans ma bibliothèque, c'est une maison où il n'y avait pas beaucoup de livres, et il y avait Eugénie Grandet. Je me suis dit, tiens, bah, je vais le relire, on va voir ce que ça donne. Et là, j'ai été stupéfait par le ferment de modernité qu'il y a dans le livre. Et j'ai écrit le scénario tout de suite derrière. Et ensuite, on est parti dans cette aventure. Ce qui est très intéressant, c'est que Eugénie Grandet, c'est déjà le rapport à l'argent, un rapport, je dirais, entre guillemets, laïque, et qui, d'une certaine façon, va déterminer le développement du libéralisme et du capitalisme jusqu'à nos jours. Mmh. Donc c'est très intéressant parce que ça, il y a une sorte de genèse de ce qu'est la société financière aujourd'hui. Mmh. C'est un type qui fait des coups. C'est ce qu'aurait voulu être Balzac d'ailleurs, parce qu'il a essayé de faire plein de coups financiers. Il a été dans les affaires, il a tout foiré.
Alors qu'il comprend si bien l'argent, mais
il y a cette phrase très forte dans votre film. À un moment, le père Grandet dit... Si on ne respecte pas l'argent, on ne se respecte pas soi-même. C'est horrible. Mais ce qui est merveilleux, c'est que vous avez su... c'est-à-dire que c'est un univers cinématographique, Eugénie Grandet. Il est radin, hein, au-delà de ce qui est possible, mais vous avez su recréer... C'est très cinématographique, Eugénie Grandet, en fait.
Ben oui, parce que j'en étais pas persuadé avant de lire le livre, mais il s'est trouvé que ce rapport à l'enfermement, ce rapport à l'espace, tout ça fait que il y avait toutes les conditions pour faire un film. Et puis évidemment, c'est aussi la genèse de pour nous en tout cas, ce qui aujourd'hui où on parle beaucoup de la condition féminine, c'est très intéressant de voir ce qu'était pour une jeune fille de province. Une petite bourgeoisie, même si elle était très riche, mais une petite bourgeoisie de province, parce que c'était que la vie d'une femme au début du 19e siècle. Et c'est effrayant.
Oui.
C'est absolument effrayant. C'est-à-dire que c'était l'église, pas le droit d'aller au théâtre parce que c'était... la religion l'interdisait. De temps en temps, elle sortait pour aller voir les moissons. Puis le reste du temps, elle passait son temps à repriser des draps, des vêtements. Et c'est une sorte de prison. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu ce rapport aussi très fort entre Grandet et cette fille. Parce que Grandet, il est dans la possession. Tout lui appartient. C'est-à-dire l'argent lui appartient, mais les êtres humains lui appartiennent aussi. Et évidemment, sa fille lui appartient, sauf que ce qui est intéressant, c'est la façon dont elle s'émancipe sur les contradictions de son propre père.
Et même les cadeaux qu'il lui offre, c'est-à-dire l'or qu'il lui donne, appartient au père.
Elle
n'a rien en propre.
Elle lui donne de l'or tous les ans à son anniversaire.
Il a une pièce d'or pour son anniversaire. Et
elle lui interdit de s'en servir. Donc, évidemment, quand elle donne cet argent à Charles, dont elle est tombée éperdument amoureuse, qui va partir dans les îles pour faire on ne sait quel commerce, là, c'est la rupture. Parce qu'elle a usé par elle-même de son argent sans l'avis de son père, qui est le grand expert. Et c'est vrai que c'était un grand expert. Grandet, ce qui est extraordinaire dans le livre, c'est que c'est le premier qui comprend l'intérêt de la rente d'État et comment spéculer sur la rente d'État. Enfin, c'est une leçon de finance au début du 19e siècle.
Mais elle a existé vraiment, Eugénie Grandet, ou elle est née entièrement de l'imagination d'Honoré de Balzac?
Alors, il y a sur les quais de Saumur, une maison très très belle qui reste là et qui apparemment était la maison de l'homme dont s'est inspiré Balzac. Ce qu'on sait moins, c'est si vraiment sa fille a eu ce sort-là ou si c'est sorti de l'imagination de Balzac, qui, comme on le sait bien, n'en manquait pas.
Alors Marc, vous êtes plongé dans l'œuvre de Balzac, replongé, en adaptant son roman Eugénie Grandet dans un très beau film avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet et Valérie Bonneton. On écoute un extrait justement.
Sans argent, qui voudrait de moi?
Qui ne respecte pas l'argent ne peut aspirer au bonheur.
Je suis Charles Grandet, fils de votre frère.
Si vous le souhaitez, cet après-midi, je vous emmènerai voir le pays.
Volontiers.
On jase beaucoup en ville sur la façon dont vous traitez votre fille.
Est-ce que l'idée d'avoir à payer une dot vous arrache le cœur?
Pas un liard ne sortira de ma poche pour acheter un mariage à ma fille.
Il a fallu que vous sortiez avec mon neveu pour faire courir les rumeurs les plus folles dans son mur.
Extrait de la bande-annonce, vous l'aurez compris. Alors moi j'ai une question, Marie-Louis, à chaque fois que je vois un film comme ça d'époque, et c'est le travail sur la langue. Comment on fait pour ne pas traire Balzac tout en réécrivant un petit peu quand même les passages pour que ça nous parle? Comment vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que c'est le plus dur quand on fait un film comme ça?
En tout cas c'est le plus important. Même si c'est pas forcément le plus dur, c'est le plus important. C'est-à-dire à la fois de respecter la langue de Balzac, qui est quand même une langue d'une richesse qu'on a de moins en moins. Et en même temps, il y a, du point de vue des gens d'aujourd'hui, cette langue leur paraît un peu surannée. Et donc, il ne faut pas non plus les dégoûter de cette langue en mettant trop.
Assommer, oui.
Donc, toute la question, c'est l'équilibre, sans tomber non plus dans une espèce de démagogie où on parlerait comme aujourd'hui. Et donc, il faut trouver le juste milieu. Et c'est un travail qui... Bah, qui est venu assez naturellement, parce que moi j'aime beaucoup cette langue-là, et en même temps j'ai ce sentiment qu'elle peut paraître, en particulier pour les jeunes, complètement dépassée, et qu'elle s'apparente à une forme de préciosité qui aujourd'hui n'a plus cours.
Eugénie Grandet, je le disais tout à l'heure, Marc, dans mon récit, c'est une jeune fille dont la mère est sur le point de mourir, qui se retrouve confrontée à un père qui va tout faire pour ne pas qu'elle hérite de sa fortune. Au-delà de l'argent, c'est une histoire de domination et de pouvoir masculin, de pouvoir paternel, de patriarcat au fond.
Alors c'est très, on est vraiment à la limite d'un rapport, je dirais pas incestueux, mais presque incestuel, c'est-à-dire même s'il n'y a pas d'ambiguïté, je dirais sexuelle avec sa fille, en tout cas pas dans le film, et moi je ne l'ai pas trouvé non plus dans le livre, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle lui appartient, et c'est pour ça que ça participe de l'avarice, c'est-à-dire qu'il ne veut pas la marier, parce qu'il ne veut pas la doter. Donc c'est perdre de l'argent, c'est donner de l'argent à quelqu'un. Mais surtout, il ne veut pas qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre. Et en fait, toute la dramaturgie du film, elle démarre vraiment quand il se rend compte que sa fille a un intérêt pour quelqu'un d'autre. Alors que jusque-là, il lui a interdit absolument le commerce avec quiconque. Et c'est à ce moment-là que ça prend une ampleur.
Justement, la modernité de Balzac qu'on peut redécouvrir dans ce film, c'est la place qu'il accorde aux femmes dans son œuvre de manière plus générale. Est-ce qu'il est le premier à montrer leurs conditions et surtout à dénoncer cette condition ?
Moi, ce que je trouve assez extraordinaire chez Balzac, c'est qu'il célèbre les femmes dans son œuvre et la pauvreté de leurs conditions. Et en même temps, il rend les hommes généralement assez ridicules. Il arrive à montrer à quel point, avec cette comédie humaine, hein, que c'est l'ensemble de son œuvre, c'est pas uniquement Eugénie Grandet, à quel point les hommes sont complètement perturbés par leur manigance et cette façon qu'ils ont finalement de passer à côté des femmes. Et il considère, et il le dit, que pour lui, l'avenir de l'homme, c'est la femme.
Il a construit, on parle de cathédrale de papier avec la comédie humaine, il s'est véritablement, au sens propre, tué à la tâche en écrivant. Est-ce que vous êtes à la fois cinéaste et écrivain aussi, Marc Duguin, est-ce que vous comprenez, vous réalisez ce qu'il a fait et le fait qu'il sacrifie même sa santé ?
Alors moi, ce que j'essaye de faire par rapport à lui, c'est de boire moins de café.
C'est ça qui l'a tué.
Je crois que c'est ça qui l'a tué, c'est le café. Il buvait, je crois, une trentaine de tasses de café par jour.
Il avait un embonpoint que vous n'avez pas. Donc.
il est mort très jeune, il avait 50 ans. 50 ans. Il est né en 99 et il est mort en 1850, donc oui, il avait 50, 51 ans. Mais il s'est vraiment tué à la tâche parce qu'il écrivait, il le raconte d'ailleurs sur Eugénie Grandet, il écrit à une de ses maîtresses et lui dit « J'ai écrit 17 heures par jour depuis une semaine. » Et alors là, c'est vrai que je travaille beaucoup parce que j'ai le cinéma, j'ai la littérature, et puis je produis des films en plus, donc ça fait beaucoup de travail. Mais là, je suis quand même assez... je suis ébahi par cette capacité. Parce que c'est très dur. En fait, c'est pas tant le temps passé à écrire. C'est très difficile, moi, je trouve, au-delà de quelques heures, d'écrire quelque chose de vraiment intéressant. C'est qu'à un moment, ça s'étiole.
Le café.
Voilà, il faudrait le café, ou alors peut-être d'autres substances pas.
En tout cas, vous êtes un bourreau de travail entre littérature et vos livres et puis ce film. Merci beaucoup Marc Duguin. Je rappelle votre film Eugénie Grandet, adapté du roman de Balzac et qui est récemment sorti au cinéma.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.